France Culture, il est midi et demi. Le journal avec vous, Antoine Mercier, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Manuel Valls défend à Bordeaux l'idée du revenu universel. Le conseil départemental de Gironde a lancé une simulation le mois dernier. Le progrès social, c'est une invention permanente, déclare le chef du gouvernement. Dossier suivi par Maxime Fayol. Gros plan dans cette édition sur un document exclusif concernant le malaise chez les policiers. Violette Voldoir s'est procuré l'enregistrement des entretiens qu'ont eu hier les policiers frondeurs avec le préfet de police de Paris qui les a reçus pendant plus de 2 heures. Nous recevrons l'un de ses représentants. En Irak, alors que les troupes irakiennes s'approchent de la ville de Mossoul, il y a plus de 230 personnes qui auraient été massacrées par l'État islamique la semaine dernière dans cette même ville. Reportage de Philippe Randet. Sur le front syrien, une coalition de groupes rebelles lance ce matin une offensive pour tenter de briser le siège imposé par l'armée syrienne au quartier insurgé d'Alep. Le plus grand sanctuaire marin au monde va voir le jour dans une partie des eaux de l'Antarctique. Un accord historique a été signé à Sydney, en Australie, donc grâce à la levée du veto russe. Et ce sanctuaire couvrira 12% de l'océan austral. C'est ce que nous dira tout à l'heure Valentine Letesse. Et voilà que le revenu universel garanti devient vraiment une idée universelle. Manuel Valls a lui-même défendu hier l'idée à Bordeaux, car le conseil départemental de Gironde, présidé par le socialiste Jean-Luc Glaize, qu'on aura en ligne tout à l'heure, a lancé une simulation à la fin du mois dernier. Une initiative donc qui est venue soutenir le Premier ministre, qui affirme que le progrès social, c'est l'invention permanente. Bonjour Maxime Fayol.
Bonjour.
Projet de revenu universel donc garanti qui fusionnerait différentes aides sociales, comme c'est le cas généralement quand ce projet est mis en place, pour adapter le modèle social, assurer une sécurité nouvelle face aux risques nouveaux de précarité. C'est ainsi qu'il est présenté. La simulation effectuée en Gironde de plusieurs mois sur le revenu universel envisage en fait des scénarios différents, 4 scénarios au total.
Et oui, 4 scénarios qu'on va classer en 2. Alors les 2 premiers sont plutôt des hypothèses basses, des options dites minimalistes. C'est notamment la fusion du RSA, le revenu de solidarité active, et des APL, les allocations logement pour l'option numéro 1, ou encore la fusion de tous les minima sociaux pour l'option numéro 2. Dans ces deux cas, il n'y a pas ce qu'on appelle de revenu de base ou de revenu universel, puisque ne sont concernés que ceux qui touchent ces minima sociaux. Mais les 2 autres hypothèses défendues, elles, vont dans ce sens. Il s'agirait d'une allocation versée à tout le monde, enfant comme adulte, une allocation du même montant pour tout le monde et qui supprime tous les minima sociaux, mais aussi les allocations chômage, les allocations santé, bref, un revenu identique pour tous, les plus fortunés comme les moins riches. 2 options alors sur le montant, 750 euros ou 1000 euros par mois, et là rien n'est tranché. La fondation Jean Jaurès, proche du Parti Socialiste, penche pour le scénario 750 euros. Mais le problème de ce revenu universel, c'est que les modalités, elles sont très dures à fixer, elles sont très floues, et qu'il y a autant d'hypothèses et de scénarios que de personnes qui la proposent sur l'échiquier politique.
Merci Maxime Fayol, effectivement ça commence à faire du monde. Alors vous avez pu aussi joindre tout à l'heure le président du conseil départemental de Gironde, donc Jean-Luc Glaize, qui vous a d'abord expliquer le calendrier.
Alors pour nous, il y a en fait 2 étapes. Il y a une étape d'étude que je qualifierais de laboratoire, qui est donc cette étude menée par la Fondation Jean Jaurès, l'Institut des politiques publiques et le CEPREMAP pour regarder à la fois quelles seraient les conséquences des scénarios que nous envisageons, des 4 scénarios, et quelles seraient les modalités de mise en œuvre. Une fois cette étude réalisée, avec des résultats donc envisagés pour le premier trimestre 2017, ensuite nous regardons de quelle manière nous pouvons lever les obstacles qui permettent l'expérimentation, parce qu'il faut savoir qu'il y a d'ores et déjà des obstacles de toute façon de nature au moins réglementaire voire législative qui empêcheront une expérimentation s'il n'y a pas une volonté au niveau national de nous aider à mettre en place cette expérimentation.
Oui, parce que financièrement, c'est quand même une lourde opération, quelle que soit d'ailleurs l'hypothèse retenue, même si c'est 750 euros ou 1000 euros par mois, financièrement, ça représente un coût.
Oui, alors ce coût sera estimé également au travers de l'étude, et donc nous serons à même d'en connaître la valeur. La venue hier de Manuel Valls au conseil départemental permet en tout cas d'avoir la volonté du soutien du gouvernement pour nous aider, y compris financièrement, à mettre en œuvre cette expérimentation.
Justement, vous l'avez vu, Manuel Valls, lui, qu'est-ce qu'il en a pensé de cette expérimentation? Est-ce qu'il vous a semblé favorable, et quelle option, lui semble la plus appropriée?
Alors, soutien, oui, puisqu'il l'a clairement affirmé lors de sa prise de parole. Il est extrêmement intéressé. En réalité, je crois que nous entrons en convergence véritablement avec une réflexion de société qui me semble d'ailleurs dépasser le Parti Socialiste lui-même, mais pas forcément d'ailleurs avec les mêmes prismes d'approche. Et donc, à ce titre, il a bien indiqué l'intérêt de ce sujet de façon sociétale et à partir de là l'intérêt d'une expérimentation qui serait tentée au niveau d'un département. Pour lui, l'échelle départementale est une bonne échelle et il trouve intéressant effectivement que nous puissions l'expérimenter, que nous soyons du coup quelque part précurseurs puisque nous avons travaillé ce sujet depuis plusieurs mois.
Mais selon quelle modalité ? Plutôt une option basse ou plutôt une option haute comme un versement de 1000 euros ?
Alors lui, il attend aussi de voir les résultats d'études. Encore une fois, nous ne savons pas précisément de quelle manière l'étude va permettre de définir les obstacles et les déverrouillages à opérer pour faire en sorte qu'elle puisse être applicable. Je crois qu'il a clairement envie, il l'a indiqué, d'un revenu universel. Les deux premiers scénarios que nous avons évoqués sont des scénarios plutôt minimalistes sur des fusions de minima sociaux. Les deux scénarios les plus maximalistes sont des scénarios vraiment de revenu universel et inconditionnel. Je pense qu'il a envie que nous allions vers cette expérience-là et c'est ce dont nous avons aussi envie au département. Donc je crois que nous pourrions entrer en convergence sur l'un des deux scénarios, soit 750, soit 1000 euros. Il est trop tôt aujourd'hui pour définir lequel.
Le socialiste Jean-Luc Glaize, donc président du conseil départemental de Gironde, au micro de Maxime Fayolle. Et puis on reparlera du sujet puisque le magazine de la rédaction ce vendredi sera consacré précisément au revenu universel. Et si travailler était un choix, on parlera cette fois-ci du test finlandais. Reportage d'Annabelle Grelier, réalisation Yacine Bouzard et présentation d'Anne Fauquemberg. Donc tout à l'heure à 17h. La France a échappé à la récession ce trimestre. Selon une première estimation de l'INSEE, le produit intérieur brut a progressé de 0,2% entre juin et septembre, chiffre donc qui évite à la France d'entrer en récession après le repli de l'activité économique enregistré au deuxième trimestre, moins 0,1%. Mais ça reste évidemment décevant au vu de l'objectif du gouvernement qui a été fixé à 1,5% cette année. Isabelle Chailloux.
Plus 0,2% au troisième trimestre, c'est donc une très légère reprise après le recul enregistré au printemps dernier. Mais ce rebond reste décevant. Plus 0,2% de croissance entre juillet et septembre, c'est peu. Et dans le détail, même si l'activité repart, l'investissement des entreprises recule et la consommation des ménages stagne. Cela fait donc deux moteurs de la croissance qui au mieux tournent au ralenti. Et cela risque de rendre encore plus délicate l'équation économique de la fin du mandat de François Hollande. Car malgré les prévisions peu encourageantes de l'INSEE, mais aussi du FMI ou de l'OCDE, le gouvernement lui table toujours sur une croissance à 1,5% cette année. Comme en 2017, et pas question de revoir à la baisse ses prévisions. Michel Sapin l'a encore redit aujourd'hui. Le ministre de l'économie reconnaît malgré tout qu'avec les chiffres publiés ce matin, il sera difficile d'atteindre cet objectif. Plus difficile et même quasi inatteignable, d'après la plupart des économistes. Il faudrait pour cela que l'économie française gagne plus d'1% sur le dernier trimestre, ce qui serait du jamais vu depuis plus de 15 ans.
Eh bien, tout ça, selon le ministre de l'économie, Michel Sapin, c'est un résultat qui ne remet pas en cause la dynamique de reprise, qui ne change rien sur le fond du chômage, qui baisse nettement, dit-il, comme sur le fond du déficit qui recule et atteindra les objectifs fixés. François Hollande, à l'instant, estime que la France est sur un sentier de croissance, même si elle n'est pas, même si elle est encore trop faible, cette croissance. C'est ce que déclare le chef de l'État lors du discours qu'il a donné tout à l'heure à l'occasion du 70e anniversaire du Conseil économique, social et environnemental. Encore un mot sur les réformes institutionnelles avec l'Assemblée nationale qui approuve le principe de faire payer des cotisations sociales aux particuliers qui louent des biens via des plateformes collaboratives. En tout cas, ce seront des cotisations à payer au-delà d'un certain seuil de revenus qui a été quelque peu relevé cette nuit. En fin de séance, hier soir, les députés avaient carrément supprimé cet article du projet de budget de la Sécurité sociale pour l'an prochain. Mais le gouvernement, donc, a demandé une nouvelle délibération. Raphaël Ebenstein.
C'est la concession majeure obtenue par les députés. Le seuil à partir duquel un simple particulier devra s'affilier au RSI, le régime social des indépendants, a été doublé par rapport à la proposition initiale du gouvernement. Il est donc fixé à 7 720 euros de revenus par an pour tout ce qui concerne la location de biens meubles, bref aussi bien une voiture qu'un bateau, et à 23 000 euros cette fois pour un appartement ou une maison. L'objectif est évidemment de lutter contre ce qui peut apparaître comme une forme de concurrence déloyale envers les hôtels, notamment l'UMI, principale organisation du secteur qui fustige l'industrialisation du phénomène de la location meublée, avait d'ailleurs immédiatement dénoncé le premier vote des députés. Reste qu'au vu des seuils qui sont fixés, peu de particuliers seront concernés. Un rapport de 2015 de la Commission des finances du Sénat avait par exemple calculé qu'un hôte Airbnb ne tire en moyenne que 3600 euros par an de la location de son logement.
Gros plan maintenant sur un document exclusif pour France Culture qui concerne le malaise chez les policiers. Violette Voldoir, bonjour.
Bonjour.
Vous avez pu donc vous procurer cet enregistrement d'entretien qu'ont eu les policiers dits frondeurs. C'était hier après-midi avec le préfet de police de Paris qui les a reçus pendant plus de deux heures. Et on va recevoir tout à l'heure d'ailleurs l'un des représentants de ces policiers. La teneur de l'entretien est assez révélatrice de la nature de ce mouvement des policiers en colère.
Oui, pendant cette réunion fleuve, en présence du préfet de police de Paris, du directeur de la sécurité du Grand Paris et d'un représentant du ministère de l'Intérieur. On peut entendre des échanges à bâtons rompus, parfois vifs, entre les interlocuteurs, mais c'était un dialogue constructif, d'après l'un des policiers convoqués. Alors, ils étaient 6 en tout, tous très impliqués dans ce mouvement de fronde policière. Alors, de quoi a-t-il été question ? Du manque de moyens, bien sûr, mais aussi de la politique du chiffre, de la question de l'avancement, notamment, et du décalage entre le moment où les agents passent les concours internes pour obtenir des grades supérieurs et le moment où ils les obtiennent réellement. Parfois, ça peut arriver plusieurs années plus tard. Beaucoup de doléances qui ont reçu des explications, mais aucune proposition de la part des représentants de la préfecture et du ministère de l'Intérieur. Soyez patients, certaines choses prennent du temps. Voilà le premier message qui a été délivré aux policiers convoqués. Alors certes, ont répondu ces policiers, mais nous voulons un calendrier précis, car les 250 millions d'euros promis au syndicat mercredi dernier n'ont pas été intégrés au budget 2017 et les policiers frondeurs craignent que ces promesses soient fragiles et qu'elles ne résistent pas à l'élection présidentielle qui se profile. Deuxième message, pas de sanctions dans l'immédiat, mais un ferme rappel à l'ordre quant à la légalité des manifestations nocturnes.
Merci Violette Voldoir. Donc on est en compagnie de l'un des participants à cette réunion. Vous souhaitez conserver l'anonymat, vous faites appeler Jules. Bonjour monsieur, est-ce que vous avez été satisfait de cette entrevue d'hier ?
Je ne pourrais pas dire qu'on est satisfait. L'entrevue d'hier a permis un dialogue à bâton rompu qui nous a permis d'exposer pas mal d'idées, pas mal de sujets, notamment de fond. En revanche, on est un petit peu, on reste sur notre fin dans le sens où ben on n'a toujours pas de calendrier, de mesures, on n'a toujours pas une visibilité.
Toutes les mesures qui ont été annoncées par le gouvernement, ils ont dit qu'ils pouvaient aller au-delà ou...
En tout cas, on a clairement exprimé la volonté qui est celle de l'ensemble de mes collègues de vouloir aller plus loin parce que pour l'instant, ce ne sont juste que des miettes et c'est des choses qui sont essentielles à notre travail. Ces mesures ne sont pas une remise en question de l'institution policière, notamment du fonctionnement hiérarchique et de la politique du chiffre, ou encore du fonctionnement syndical qui verrouille un petit peu nos velléités.
Alors vous avez sans doute fait l'objet de beaucoup de compréhension, mais en même temps, est-ce que vous avez été mis en garde sur la suite du mouvement ?
Le préfet, dans son rôle, il nous a rappelé nos obligations en tant que manifestants, à déclarer ces manifestations et les inscrire en préfecture. Donc il a axé, on va dire, son message, le message du gouvernement dans ce sens. Donc nous travaillons actuellement pour justement rentrer dans le rang et surtout éviter de donner une mauvaise image de la police qui ne respecterait pas les règles. Parce que justement, l'idée c'est de vraiment montrer que la police est... pas forcément irréprochable, mais qu'en tout cas, elle travaille sur son image et qu'elle veut montrer aux gens et aux citoyens que ben, la police, c'est positif. C'est pas des...
Rentrer dans le rang, vous dites, mais le mouvement se poursuit.
Le mouvement se poursuit,
apparemment.
Absolument.
Comment il va évoluer, ce mouvement ?
Dans un premier temps, il va y avoir un très gros rejet des syndicats. Parce que mes collègues sont totalement exaspérés de ce qui se passe par rapport à tout ça. Ils en ont marre des récupérations politiques, ils en ont marre d'être muselés, en fait, parce que tous ces problèmes ont été remontés depuis des années, hein, que ce soit à notre hiérarchie ou au syndicat. Et on a l'impression, en fait, qu'il n'y a plus de lutte syndicale. Ils ne tapent pas assez du poing sur la table. Regardez, par exemple, en une semaine, j'ai l'impression qu'on a obtenu bien plus que ce qu'ils ont obtenu les 15 dernières années. Donc c'est bien preuve que leur travail est inefficace. Donc il faut aussi qu'ils se remettent en question et qu'ils avancent pour justement soutenir les collègues, parce que c'est ça qu'on attend d'eux.
Est-ce que vous pensez que les thèmes de votre mouvement concernent aussi d'autres catégories de salariés, de fonctionnaires, par exemple ? On pense à votre dénonciation de la politique du chiffre auquel vous faisiez allusion, qui ne touche pas seulement, on le sait bien, que la police. Est-ce que vous sentez ce mouvement, éventuellement d'agrégation d'autres catégories?
C'est une évidence qu'on le sent, ce mouvement. J'entendais encore hier un membre de le syndicat de la magistrature se plaindre de la politique du chiffre dans la justice. Je pense que les infirmiers, les professeurs, les gendarmes, les pompiers rencontrent tout un tas de problématiques communes avec nous. Donc je pense que...
C'est les policiers qui vont faire la révolution?
Non, on ne parle pas encore de révolution, ce n'est pas, pas le sujet.
Ah, je l'appelle encore.
Non, on parle pas, je ne dis pas encore, parce que le but, ce n'est pas de faire la révolution, de renverser l'autorité. Le but, c'est de faire avancer les choses, de pouvoir proposer, de pouvoir créer un contre-projet, pourquoi pas syndical, pour justement proposer. La démarche est positive, ce n'est pas du tout une opposition à vouloir taper sur la justice parce qu'ils ne sanctionnent pas assez ou taper sur les uns les autres. Non, le but, c'est de proposer, de créer ensemble un nouveau modèle qui soit beaucoup plus juste et beaucoup plus transparent.
Donc vous êtes de gauche, finalement?
J'ai jamais voté à gauche, mais je ne sais pas si on peut me qualifier de gauche, mais en tout cas, c'est l'idée de l'intérêt général qui prédomine.
Alors, Violette Voldoir, une question.
Si ça ne passe pas par les syndicats qui disent que vous dites qu'ils ne vous représentent plus, par quoi est-ce que ça passe pour porter cette parole légitime? Comment vous allez faire? Est-ce qu'il faut créer un collectif? Est-ce que vous allez créer un autre syndicat, un parti? Voilà, quelle forme ça peut prendre?
Alors on est en train d'y travailler justement entre nous, de réfléchir à tout ça pour justement pouvoir au mieux être le plus visible, le plus clair possible et le plus structuré, parce que c'est vrai qu'on nous reproche souvent de pas avoir de porte-parole ou d'avoir des propositions un petit peu divergentes, etc. C'est normal, hein, parce que de toute façon le mouvement on le maîtrise pas du tout, c'est le mouvement de la base, c'est le mouvement des policiers, du peuple, de la voie publique, des commissariats, donc et de tous les services d'ailleurs.
Est-ce que vous en discutez entre vous de ça, la forme que ça peut prendre, qui pourra être porte-parole et surtout comment peser dans le débat sans passer par la voie syndicale légitime, représentative?
On travaille beaucoup à ça justement, on échange entre nous, on essaie de prendre des contacts avec des gens qui peuvent avoir nous apporter leur soutien médiatique. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui se sont exprimés, il y a déjà Renaud qui a dit qu'il était prêt à manifester avec nous, donc s'il est prêt, nous l'invitons à nous rejoindre.
On pourra
embrasser Renaud justement comme lui souhaite embrasser les flics, ça sera avec plaisir. Entre autres, il y a d'autres contacts en cours justement pour développer le mouvement.
Donc ça n'est pas finalisé.
Ce n'est pas finalisé.
Une dernière question, Violette Voldoir.
Oui, quelles sont les revendications qui font consensus aujourd'hui? Vous dites que vous voulez faire en sorte de porter des revendications qui soient à peu près homogènes, mais c'est vrai que pour l'instant, beaucoup de choses différentes se disent. Rétablissement des peines planchers ou pas, plus forte réponse pénale, et Cazeneuve a d'ailleurs répondu là-dessus. Qu'est-ce qui vous paraît faire le plus consensus dans ce mouvement de base des policiers?
Je pense que ce qui paraît le faire le plus consensus, c'est le rejet syndical, comme je vous l'ai déjà expliqué. La politique du chiffre est clairement pointée du doigt par l'ensemble de mes collègues. Au-delà des conditions de travail déplorables, vous avez pu voir par voie de presse toutes les photos des commissariats en état de délabrement. On a même vu des vidéos avec des rats dans un commissariat. Enfin, tous ces moyens matériels, immobiliers, etc. doivent évoluer. Je pense que dans ce cadre-là, le gouvernement a entendu le message, parce que forcément, il voit les images comme nous et il est aussi choqué que nous. C'est pas suffisant, on veut un travail de fond pour vraiment avancer et créer une police moderne qui puisse justement répondre aux attentes des gens, parce que pour ne citer que cet exemple-là, attendre des heures pour déposer une plainte, ce n'est juste pas admissible.
Merci beaucoup Jules.
Merci à vous.
D'avoir accepté de venir vous exprimer au micro de France Culture.
12h48, on passe au débat de la primaire à droite, tandis qu'Alain Juppé et Nicolas Sarkozy étaient tous deux hier à Marseille. François Fillon prenait, lui, à la télévision une confrontation sérieuse, disait-il, avec les États-Unis, mais aussi d'ailleurs avec la Russie, pour que la France défende ses intérêts en politique étrangère. Invité de France 2, il affirme que les intérêts de la France sont menacés aujourd'hui par les incursions, notamment de la justice américaine, dans notre économie. Les États-Unis, ajoute-t-il, exercent une forme de contrôle de l'économie européenne absolument insupportable, contraire au droit international et à la morale internationale. Ludovic Piétenu, vous avez regardé pour nous cette prestation hier soir, François Fillon qui tente effectivement de se maintenir au milieu du duel des favoris.
François Fillon ne fait pas rêver, c'est certain. Il est d'une certaine façon austère, il est surtout pragmatique. C'est l'homme qui, dès son arrivée à Matignon en 2007, se dit à la tête d'un État en faillite. Hier soir, il est apparu constant sur ce sujet des finances publiques comme sur d'autres. À Matignon de 2007 à 2012, aujourd'hui en campagne primaire, il n'a pas adapté son discours. C'est certain, c'est un conservateur, mais il n'est pas opportuniste ou tacticien. Dans cette émission grand public, il s'est donc plutôt montré fiable, sérieux, jamais violent. Il assume tout, même même certaines déclarations, comme celle-ci. La France n'est pas coupable d'avoir voulu faire partager sa culture au peuple d'Afrique et d'affronter le syndicaliste guadeloupéen Elido Mota, qui l'accuse de racisme et d'apologie de crimes contre l'humanité. Il est droit sur son souhait de s'en prendre aux régimes spéciaux face à des cheminots. Il assume, par sa foi chrétienne, son opposition à l'IVG et au mariage homosexuel, même s'il ne reviendra, dit-il, ni sur l'une ou l'autre de ces lois. L'homme ne dévie pas en cela, il ressemble à Juppé, mais il a une qualité que les autres n'ont pas. Si l'on se réfère à la dernière livraison cette semaine du sondage Ipsos pour le Cevipof de Sciences Po et Le Monde, il est celui devant Sarkozy, devant Le Maire, loin devant Juppé, pour qui les électeurs votent par adhésion, celui qui apparaît donc comme le plus fidèle aux yeux des électeurs de droite.
L'actualité à l'étranger maintenant, avec toujours la guerre en Syrie. À Alep, une coalition de groupes rebelles lance ce matin une offensive pour tenter de briser le siège qui est imposé par l'armée syrienne aux quartiers insurgés. Hier, il y avait un raid aérien qui a tué au moins 15 enfants dans une école de la province d'Iblid à l'ouest d'Alep. Moscou a nié toute responsabilité. Et ce matin encore, des bombardements ont une nouvelle fois touché une école dans cette même province. 22 enfants tués. L'attaque provoque de très vives réactions, Nadine Epstein.
Savoir si cette école dans la province d'Idlib, comme les 4 autres établissements scolaires touchés depuis 10 jours en Syrie, sont des cibles intentionnelles ou pas, seules des enquêtes peuvent le déterminer. D'ailleurs, c'est pour cela que le Britannique Gordon Brown, envoyé spécial de l'ONU pour l'éducation, vient de demander une investigation de la Cour pénale internationale. La Russie, elle-même, qui nie toute implication dans cette offensive, a demandé l'ouverture d'une enquête. Depuis 2 ans, 98 attaques ont visé des écoles et celle de mercredi qui a tué 22 enfants est la pire, dénonce l'UNICEF. Les écoles sont des sanctuaires, des endroits de protection des civils et les cibler est une violation du droit international qui s'assimile à un crime de guerre. Les réactions pour dénoncer cette nouvelle tragédie apparaissent comme un constat d'impuissance à ralentir la guerre qui ravage la Syrie depuis 5 ans. Cette attaque intervient après l'échec de l'ouverture de corridors humanitaires à Alep, un scénario qui rappelle ce qui s'est passé en février dernier. Là aussi, alors qu'une trêve avait été décidée et devait entrer en vigueur, des tirs de missiles ont frappé 2 écoles et 5 établissements médicaux, dont un hôpital géré par MSF. Bilan, une cinquantaine de morts. Des attaques délibérées ou non contre des institutions scolaires et médicales se banalisent en Syrie, tout comme d'ailleurs dans les autres pays en conflit, en Irak, au Nigeria et au Yémen. Aujourd'hui, plus de 30 millions d'enfants sont déplacés dans le monde, le chiffre le plus important depuis les années 40.
Merci Nadine Epstein. Sur le front irakien maintenant, selon des informations publiées par les Nations Unies, plus de 230 personnes auraient été massacrées par l'État islamique près de Mossoul. La semaine dernière, 8000 familles seraient maintenant prises en otage dans les villages alentours pour s'en servir comme bouclier humain. L'objectif des djihadistes serait notamment de dissuader les frappes aériennes de la coalition internationale qui soutient donc les forces irakiennes et kurdes, lancées, on le sait, à la reconquête de leur dernier grand bastion urbain dans le nord de l'Irak. Reportage de Philippe Randé dans un camp de réfugiés non loin de Mossoul.
C'est le fils de mon frère, crie Ismaël, juste devant le camp de Razir. En face de lui, son neveu, Mohamed, vient d'arriver d'un village en périphérie de Mossoul. Ils sont chacun d'un côté du grillage, mais parviennent quand même à s'embrasser en pleurant.
Ça fait 2 ans et demi qu'on ne s'est pas vus. Moi, j'ai fui dès que Daesh est arrivé.
Et moi, ça fait 3 jours, seulement 3 jours. L'armée est venue, on en a profité pour fuir et pour venir ici. Tous les jours, même en dormant, je me suis persuadé qu'un jour je serais libre, et c'est aujourd'hui, tous les jours, j'y pensais.
Pendant de très longues minutes, Mohamed et Ismaël restent comme ça, face à face, comme s'ils avaient besoin de temps pour se regarder avant que Mohamed ne raconte ses 2 ans et demi en enfer.
J'ai perdu ma maison, ma voiture, mais je m'en fiche, je me sens heureux et en sécurité. J'ai eu tellement peur, ils nous ont obligés à avoir la barbe, interdit les téléphones, les cigarettes, tout. J'ai changé, mes cheveux étaient noirs, ils sont blanc à cause de la peur, des bombardements et des tirs des djihadistes. Et puis ils nous prenaient comme prisonniers sans raison.
Finalement, après un bref interrogatoire, Ismaël est autorisé à entrer dans le camp pour rejoindre son neveu. Des dizaines de familles sont en train de se presser en ce moment à Razir, où 1200 déplacés sont arrivés ces dernières heures.
Reportage donc de Philippe Randet avec Fabien Gosset. On termine avec cet accord historique à Sydney pour la création du plus grand sanctuaire marin au monde dans une partie des eaux de l'Antarctique. Il va couvrir 12% donc de l'océan austral qui abrite 10 000 espèces, dont une grande partie de la population mondiale de manchots, de baleines et autres oiseaux de mer. Valentine Lettès.
Imaginez une zone grande comme la France, l'Italie, le Benelux, l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche. 1,55 milliard de kilomètres carrés dans le dernier océan du monde, la mer de Ross, on l'appelle comme ça puisque c'est le dernier écosystème marin qui n'a pas été touché par la pollution, la surpêche ou par des espèces invasives. Alors cette immense baie côté Pacifique est maintenant totalement protégée pendant 35 ans. Et la pêche contrôlée du krill, des petites crevettes grises d'eau froide, pilier de l'écosystème marin, reste autorisée dans un quart de la zone. Ce sont les deux regrets des associations de défense puisqu'en réalité la pêche sera simplement déplacée. Mais c'est aussi ce qui a convaincu la Russie. C'est elle qui mettait son veto depuis 2011, puisque dans la mer de Ross, beaucoup de zones sont encore inexplorées. Un eldorado d'écosystèmes et de ressources naturelles, gaz, pétrole ou minerais, selon des chercheurs. Alors même si Moscou se montre intéressé par l'environnement en ce moment, 2017, année de l'écologie en Russie, agrandissement de son aire marine protégée en Arctique, rien ne dit que dans 35 ans, la mer de Ross ne deviendra pas son nouveau paradis de l'hydrocarbure. Pour autant, c'est déjà une grande avancée pour WWF, qui a sorti hier un rapport sur l'effondrement des populations animales vertébrées. Cet accord historique permettra peut-être de trouver un consensus sur un second sanctuaire porté cette fois par la France et l'Australie dans l'Antarctique.
Valentine Lettès, merci. La grisaille va persister sur le tiers nord du pays. Ailleurs, il y aura de belles éclaircies, de plus en plus belles au fur et à mesure que l'on va vers le sud. Des températures de 12 à 24 degrés. Édition réalisée avec Brice Garcia. Prochain journal 18h avec Véronique Roberotte.